Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Aujourd'hui, Univox va parler de sécurité alimentaire. La notion fleurit un peu partout dans les médias en raison de la hausse des prix mondiaux qui pèse sur la production agricole. Le coût de l'alimentation, déjà à la hausse depuis longtemps, préoccupe. Mais si l'on parle de sécurité alimentaire, c'est avant tout d'un point de vue du risque social sur notre société. La société française. Or, il se trouve que dans notre société, tout le monde ne mange pas à sa faim, ni bien. Le fait est ancien, il révolte les uns, gêne profondément les autres, mais la pandémie et les confinements ont révélé le problème et la dégradation du niveau de vie des populations à revenus modestes est devenue impossible à cacher. Aujourd'hui, nous mettons les pieds dans le plat de la sécurité alimentaire. Nous commencerons par Tanguy Martin, ingénieur sans frontières et militant de la sécurité sociale alimentaire.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées en même temps, on va dire, au cours des années 2010, avec différents acteurs, avec différentes visions et différentes sensibilités qui se sont rencontrés et qui ont finalement, quelque part, cristallisé l'idée. Il y a d'un côté des militants de la question agricole, donc des gens qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'être paysan, qu'est-ce que ça veut dire dans la société. Donc je pense notamment aux gens de la Confédération Paysanne et aux gens d'un réseau qui s'appelle le réseau CIVAM, qui s'intéresse un réseau d'éducation populaire qui va travailler avec des groupes d'agriculteurs qui vont essayer de trouver par eux-mêmes, pour eux-mêmes, les solutions à leurs problèmes. Donc il y a tous ces gens-là qui, à un moment, travaillaient beaucoup, ou travaillent toujours d'ailleurs beaucoup en circuit court, qui vendent leurs produits en direct à travers des magasins de producteurs. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait toujours la même population qui venait leur acheter leurs produits et qu'il y avait des gens, notamment issus des quartiers populaires, qu'ils ne voyaient jamais acheter leurs produits. Et en fait, ils ont commencé à se demander, mais finalement, où est-ce que ces gens s'alimentent? Et qu'est-ce qui fait que nos produits ne leur conviennent pas, ou en tout cas ils ne viennent pas consommer nos produits? Pourquoi est-ce qu'on ne nourrit pas tout le monde et qu'on nourrit juste une partie de la population? De l'autre côté, il y a une rencontre avec des militants sur des questions économiques, notamment le réseau Salariat, qui se bat beaucoup pour la reconnaissance de l'idée de cotisation, du rôle social de la cotisation et ses différences avec l'impôt et de son rôle émancipateur, et justement qui ont commencé à discuter avec le syndicat de paysans, donc la Confédération Paysanne. Et puis il y avait aussi des chercheurs qui travaillaient sur les questions d'alimentation, de pauvreté, qui se posaient tout un tas de questions là-dessus. Et enfin, un certain nombre de personnes ou d'organismes qui travaillent autour de la question de la précarité alimentaire, de l'aide alimentaire, avec une vision critique de ce qu'elle est, ou en tout cas de ce qu'elle est devenue. Alors je pense au Secours catholique, et je pense aussi à Thédé Carmonde, qui a énormément réfléchi là-dessus. L'agriculture que beaucoup de gens appellent de leur souhait, une agriculture plus locale, plus environnementale, meilleure pour la santé, meilleure pour la planète, plus sociale aussi, plus équitable, qui va mieux rémunérer les paysans, répondre aux enjeux du 21e siècle. Cette transformation de l'agriculture et derrière de l'alimentation, en fait, n'est pas possible telle qu'aujourd'hui les consommateurs peuvent consommer et les consommateurs sont solvables. Le système alimentaire tel que le marché alimentaire est aujourd'hui organisé est un verrou de cette transition agroécologique et de cette transition alimentaire. L'idée, c'est effectivement la réalisation de ce qu'on appelle le droit à l'alimentation, qui n'est pas un truc qui sort du ciel ou qu'on a inventé, hein, c'est quelque chose qui s'est codifié au cours du XXe siècle à l'ONU en déclinant la Déclaration des droits humains de 1948. Et donc il y a tout un tas de droits qui ont été tirés, et notamment cette question du droit à l'alimentation qui n'est pas juste le droit à être nourri ou le droit à avoir une certaine quantité de calories, mais je ne vais pas vous donner la définition officielle exacte, mais c'est le droit d'avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, mais aussi en qualité, j'ai envie de dire matérielle, mais aussi sociale, qui répond aux aspirations des populations. Et donc c'est pas juste le droit à être nourri, à avoir le ventre plein, qui d'ailleurs n'est pas vraiment rempli pour une bonne partie de la population, y compris en France, mais c'est bien au-delà de ce droit d'être nourri, c'est vraiment le droit à l'accès à une alimentation qui est une fonction à la fois biologique, mais aussi une fonction sociale des êtres humains. Parce qu'on a fait le constat que ça n'était pas possible, ou qu'en tout cas, ça n'était pas réalisé aujourd'hui en France. C'est bien au-delà de ce droit d'être nourri, c'est vraiment le droit à l'accès à une alimentation qui est une fonction à la fois biologique, mais aussi une fonction sociale des êtres humains. Il y a effectivement un frein qui est extrêmement important, qui est ce frein, on va dire, économique. Et voilà, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire 3 repas par jour en quantité et encore moins en qualité suffisante. Des gens qui sautent des repas, des gens qui se serrent la ceinture, hein, pour parler trivialement. Et donc là, il y a quelque chose qui est insupportable, alors que dans le même temps, on est une des plus grandes puissances agricoles du monde et que par ailleurs, la production alimentaire mondiale permettrait de nourrir environ 12 milliards de personnes, et on n'est pas du tout 12 milliards. Et même avec la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la production agricole, même si le blé ukrainien est extrêmement important dans les systèmes alimentaires mondiaux, en fait, il y a largement assez de production pour nourrir tout le monde sur la planète. Donc le problème d'accès est un problème économique et plus largement, parce que l'économie c'est politique, un problème politique. À ces problèmes d'accès économique, ça rajoute d'autres problèmes d'accès à l'alimentation qui sont des problèmes géographiques. On parle de déserts alimentaires, d'endroits où en fait très difficile d'accéder à l'alimentation et on accède à l'alimentation uniquement à travers des supermarchés. Se posent des problèmes d'accessibilité géographique et culturelle. Et parce qu'il y a un certain type d'alimentation qui serait, sur le papier, bénéfique à la fois pour l'environnement et pour la planète, mais qui a été accaparé par une certaine catégorie de population, par certaines classes sociales. Je pense notamment à l'agriculture biologique, en fait, ou même au commerce équitable, qui peut être utilisé comme un attribut de distinction sociale, et donc par effet ricochet, en fait, être moins attractif ou poser des questions à des populations qui n'appartiennent pas aux classes sociales aisées. Et donc là, voilà, il y a ces problèmes. Donc, d'accessibilité économique, géographique, socioculturelle. Et tout ça est basé sur des inégalités économiques, territoriales, sociales, qu'on veut dépasser, évidemment, qu'on veut abolir. Et pour y revenir, donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation vise bien à cela. On estime environ à 7 millions de personnes aujourd'hui qui ont recours à l'aide alimentaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin qu'on leur donne leur alimentation parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'acheter, ou très peu. Alors 7 millions, là j'ai plus exactement en tête, mais c'est ce qui est porté en tout cas par toutes les associations qui s'occupent de précarité alimentaire. Le ministère avait pendant la pandémie annoncé un chiffre de 8 millions de personnes et il a été corrigé légèrement à la baisse. Voilà. Mais c'est des chiffres assez officiels. Il y avait un rapport sénatorial qui disait, il me semble qu'en 2017-2018, il y avait 5,2 millions de personnes qui recouraient à l'aide alimentaire. Donc vous voyez, en plus, c'est pas juste un chiffre qui est interpellant, c'est un chiffre qui est interpellant et en hausse. Et il y a évidemment des non-recours à tous les dispositifs d'aide alimentaire, il y a des non-recours. Donc voilà, on a plus de 10% de la population aujourd'hui qui recourt à l'aide alimentaire, et donc plus de 10% de la population qui aurait besoin de cette aide alimentaire. En tout cas, d'autres politiques, je pense pas que les gens aient besoin d'aide alimentaire, je pense que c'est une mauvaise façon de formuler ça. Au final, les gens ont besoin d'un autre type de politique ou d'un autre type de société où il n'est pas besoin d'aide alimentaire pour pouvoir accéder à une alimentation de qualité. Et nous, ce qu'on définit, au final, la qualité telle qu'on la définit, c'est une qualité choisie. C'est les gens, lorsqu'ils sont informés de leur alimentation et de ses impacts sur eux et sur la planète et sur la société, il n'y a aucune raison qu'ils aient envie de se faire du mal à eux-mêmes et aux autres. Le système alimentaire tel qu'il est organisé en France, c'est certainement vrai ailleurs dans le monde, génère automatiquement de l'inégalité sociale, voire nous ce qu'on appelle la dualisation des modèles alimentaires, c'est-à-dire une partie de la population qui va avoir accès à une alimentation de qualité choisie et une partie de la population qui va être ce qu'on appelle en alimentation contrainte, qui ne va pas pouvoir choisir son alimentation et qui ne va pas pouvoir exercer son droit à l'alimentation et qui même va devoir se serrer la ceinture et éventuellement avoir faim. C'est pas le modèle de société dans lequel on veut vivre, et donc vers quel système on pourrait aller qui pourrait permettre de résoudre ces problèmes-là. Et on a essayé de chercher un petit peu dans ce qui existait déjà. L'idée, c'est pas forcément de réinventer l'eau chaude. Donc, quels sont les systèmes d'accès à des droits fondamentaux qui fonctionnent aujourd'hui en France? Et on a assez rapidement penser à la sécurité sociale et notamment à l'assurance maladie. Pas pour dire que la sécurité sociale va fantastiquement bien en France aujourd'hui et que l'accès aux soins est fantastique en France aujourd'hui, mais néanmoins, on sait qu'on a un système politique qui est malgré tout assez efficace en regard de ce qui existe dans le monde. Et on a 2-3 idées de comment on pourrait le faire bien fonctionner, parce qu'en fait, il est sans cesse attaqué par des politiques libérales depuis des décennies. Mais on avait voilà, une source inspirante avec notamment l'assurance maladie. Et on s'est dit, bah, finalement, si on veut permettre de sortir de ces systèmes d'inégalité, de ces systèmes d'oppression par l'alimentation, est-ce qu'on ne pourrait pas repartir de la sécurité sociale? Et une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on adapte? Parce que bah, la santé, ce n'est pas comme l'alimentation. On ne se soigne pas tous les jours, même si effectivement une bonne hygiène de vie permet peut-être de faciliter une bonne santé. Mais l'alimentation, c'est vraiment un besoin quotidien. Et donc ça ne peut pas être exactement la même chose qu'une assurance maladie. Et donc on est parti, on a essayé de partir de 3 grands principes qui pour nous sont ceux de la sécurité sociale et de les appliquer à l'alimentation. Donc le premier principe, c'est celui de l'universalité. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire une politique d'accès à l'alimentation pour les pauvres, c'est de faire une politique de réalisation du droit à l'alimentation. Donc tout le monde doit être bénéficiaire de cette sécurité sociale de l'alimentation. Et donc l'idée, c'était de fournir un budget alimentaire à toutes et tous. Et donc ce budget alimentaire à toutes et tous, il prendrait la forme d'une allocation de 150 euros par personne et par mois. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est un principe de démocratie. C'est peut-être celui qui a été le plus attaqué dans la sécurité sociale et dans l'assurance maladie. Au départ, avant 1967, c'était les syndicats de travailleurs qui dirigeaient les caisses de sécurité sociale et qui donc définissaient finalement les besoins qui allaient être remboursés par la sécurité sociale. Et puis ça a été petit à petit détricoté et transmis à des experts et à l'État qui aujourd'hui va définir finalement qu'est-ce qu'est une bonne santé et quels sont les soins et les médicaments auxquels on peut accéder via la sécurité sociale. Donc nous, on veut revenir à cet esprit démocratique et donc on dit il faut des caisses de sécurité sociale de l'alimentation qui vont collectivement décider quels produits, quels aliments vont pouvoir être achetés avec l'allocation de 150 euros par mois et par personne, et donc quels producteurs vont pouvoir être conventionnés pour produire cette alimentation. Donc ça, c'est le deuxième principe, c'est un principe de conventionnement démocratique. Et puis le troisième principe, c'est le principe de financement économique, et de repartir bah, de l'idée de cotisation qui fait que la sécurité sociale est aujourd'hui un mécanisme acapitaliste. L'idée de la cotisation, c'est de prendre la valeur économique là où elle est créée, de ne pas attendre qu'elle soit prélevée par l'impôt, puis ensuite dirigée par l'État, mais qu'elle puisse être prise au moment où elle est créée et qu'elle puisse être socialisée, c'est-à-dire répartie entre les uns et les autres. Et donc, finalement, ça pourrait prendre la forme d'une cotisation donc, qui serait sur les bulletins de salaire des uns et des autres ou sur les revenus des travailleurs indépendants qui cotiseraient plus selon leurs moyens et recevraient aussi selon leurs besoins. Tout le monde a besoin de s'alimenter, donc tout le monde recevrait un petit peu. Donc on a bien ces 3 piliers, l'universalité, la démocratie et, une économie hors du capitalisme. Et pour nous, c'est ces 3 principes qui permettent de réaliser l'accès au droit à l'alimentation, donc l'accès à une alimentation de qualité. L'amélioration environnementale, elle est dans ce que je vous ai présenté, elle est pas directe, mais il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, en tout cas, Ingénieurs sans frontières Agresta, mais je pense la plupart des gens qui sont réunis en collectif autour de cette idée de sécurité sociale et d'alimentation, en fait, on est persuadés qu'il n'y a pas de solution écologique ou environnementale en dehors de la démocratie. Un système démocratique de choix de l'organisation de la société est la seule manière d'arriver à des décisions environnementales et écologiques opérantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des citoyens, au sens très large du terme, hein, pas des gens qui ont de la nationalité, mais des gens qui vivent dans la société, qui ont la capacité d'une certaine information sur leur choix de vie et ont la capacité d'élaborer collectivement comment la vie va s'organiser, on ne voit pas pourquoi les gens choisiraient de se détruire ou de détruire la planète. Pour nous, le préalable, c'est d'avoir cette capacité d'inclusion, cette capacité de réunir tout le monde dans une véritable démocratie, même si on n'avait aucune considération sociale, démocratique, du tout, ou de relation aux droits humains. En fait, ça serait inefficace pour la planète. Et donc nous, on pense que, au contraire, il est urgent de mettre en place des systèmes démocratiques pour pouvoir sauver l'environnement. Sur la question étatique organisationnelle, ce qui, je pense, est assez intéressant avec cette proposition, c'est qu'elle peut à la fois être mise en place avec peu de nécessité de changement politique dans la Ve République, avec effectivement quelque chose qui serait organisé en partie par l'État. Il y a certainement deux, trois petits écueils dans le droit européen qu'il faudrait modifier, mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on ne respecte pas le droit européen et ça pose de problème à personne.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
La deuxième proposition, c'est celle des équipes de maraudes citoyennes. On est avec la maraude Imagine Demain, Hélène et Christophe.
Comme ça?
Oui.
Ouais.
Très bon, oui.
Elle est où, votre
mari? Elle est là-bas, au côté de mon chariot.
Allez. Ça marche. Voilà, ça marche.
Maria, il y a eu...
Maria, tu te rends?
Oui.
Oui.
Oui. Oui.
Qui ça?
Et il me fait rêver parce qu'il est en position
skieur. Ah oui, il est comme ça. Il,
comme ça. Tu sais, en appui sur les languettes.
Ouais, regarde, là il est tout chou, regarde.
Non mais c'est impressionnant.
Mais je pense qu'il y a longtemps qu'il n'a pas fait de ski en plus.
Vous voulez bien parler dans un micro? Je fais juste un petit reportage sur les maraudes.
Mais
en plus, général.
Mais c'est personnel ou... Bon, déjà, l'hiver, il fait très froid. La soupe, c'est un élément pour nous presque majeur. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Surtout la convivialité. On se connaît tous dans la rue, on a un certain âge. Voilà. Et on est très content de quand Hélène, elle arrive avec la soupe et ses denrées. Voilà. Oui, on est aidé. Moi, j'ai une très petite retraite parce que j'ai un certain âge, tu comprends? Si je le dis, je vais avoir 80 ans. Mais personne ne le sait. Voilà.
Et on est comme ça.
C'est comme ça, la rue. Moi, la rue, je l'ai vécue depuis mon enfance parce que j'ai pas eu de père. Ma mère est morte très tôt et la rue, j'aime la rue aussi.
C'est un moment où on peut, discuter. Échanger et heureusement que ça existe, des trucs comme ça pour les gens. Je vis chez mes parents, mais je viens surtout là pour parce que je connais des gens qui sont ici et avec qui j'ai fait connaissance par rapport aux maraudes et je viens souvent pour les voir le soir. Non, je suis venu comme ça un jour et petit à petit j'ai fait, des fois j'ai aidé dans les maraudes.
Ça ne devrait pas exister ça. Ça ne devrait pas exister, c'est le gouvernement qui devrait prendre ça en main. On ne devrait pas venir ici. Non mais je suis venu ici parce que moi je prends des trucs et je les redonne à des handicapés. Moi je m'occupe d'handicapés qui ont surtout beaucoup de problèmes de comment tu appelles ça. Il chope la gangrène et il faut couper les membres. Diabète.
Et en fait, c'est
diabète. Et la plupart, ils ont diabète. Hein.
C'est des handicapés qui vivent dans la rue?
Non, ils ne vivent pas dans la rue.
Ils sont très pauvres?
Ils sont très pauvres. Ils ont l'autre, la dame, elle a 170 euros pour vivre par mois. L'autre dame, elle a 240 euros pour vivre par mois. C'est pas possible. Hein. Moi, je suis en guerre avec ça. Je suis en guerre parce que c'est pas normal que ces gens-là n'ont pas assez pour vivre. Et il devrait avoir au moins 170 euros, ça fait 5 euros par jour pour vivre.
En plus du logement ou bien sans compter?
Ça, le logement, c'est des associations qui les fournissent, le logement. Encore heureux, parce que comment vous voulez qu'ils fassent? Ils ne pourraient pas, ils sont dans les fauteuils. Hein.
Ça veut dire qu'elles n'ont même pas le minimum vieillesse, elles ne sont pas encore à l'âge d'avoir le minimum vieillesse?
Non. Il y a une dame que je m'occupe, elle a 63 ans, c'est une Congolaise. Elle est dans la misère, hein, et franchement, voilà. Donc je lui apporte à manger, je lui apporte des plages, je trouve là, des trucs ici, là. Je lui emmène, je trouve des plats un peu partout, ou des sandwichs ou n'importe quoi, je lui emmène. Alors quand tu vas avoir pris une soupe, tu vas t'envoler. C'est comme les Red Bull.
Et tu peins.
Alors Imagine Demain, c'est une asso donc, qu'on a créée il y a un an et demi avec Hélène, Véronique et Florian. En fait, on faisait partie d'une autre asso qui s'appelait la Maraude Libre Dynamique. Et on s'est retrouvés tous les quatre à marauder ensemble et à avoir d'autres projets. Et donc on a décidé de créer cet asso Imagine Demain. Maintenant, on se charge essentiellement de faire des récupérations, des maraudes sur Bordeaux Centre le mardi et le samedi soir. Aussi sur Mérignac le mercredi et le jeudi sur Pessac ou l'inverse.
Au départ, la maraude, elle a été créée parce que quand il y a eu le Covid, la maraude avec qui on tournait a arrêté, tout simplement. Et donc, on s'est dit non, c'était pas possible, on pouvait pas laisser les gens en galère. Donc, on a décidé de créer cette association et de donner à manger dans la rue, quoi. On a distribué à manger dans la rue, mais pas que. Il y a eu des jeunes de la fac qui nous ont appelés directement et on a pris contact avec ces jeunes. On a commencé à leur donner de la nourriture parce qu'en fait, ils galéraient, ils avaient pas grand-chose à manger, quoi.
Sur le domaine universitaire.
On a un rapport de confiance qui s'est installé. Les gens, on discute beaucoup avec eux. Et ce qui fait que quand ils ont des soucis ou quand ils ont des besoins, ils viennent nous voir. Ça permet de les aider, quoi.
Au fil du temps, on retrouve un peu les mêmes personnes sur les différents sites. Donc forcément, il y a des liens qui se créent puisque on voit ces personnes au minimum deux fois par semaine. Donc on les suit un peu, on les conseille un peu, ils nous racontent un peu plus ou moins leurs histoires. Et donc il y a des liens, voire même d'amitié qui se sont créés avec certains. On est content de venir chaque fois les rencontrer. Eux, je pense que c'est réciproque et donc on passe en fait un bon moment ensemble chaque fois. Et effectivement, on distribue de la nourriture, c'est une chose, mais en fait, on passe beaucoup de temps avec eux à discuter de tout et de rien. Ça fait du bien à tout le monde en fait.
Le manger, le repas, c'est hyper important, mais le lien social est très important aussi pour eux. Et... D'accord.
On a le problème de l'envergure du souci alimentaire en France. L'idée d'une sécurité sociale alimentaire, ça part du constat qu'il y a une incapacité nationale à fournir de la nourriture aux gens qui en ont besoin, surtout pendant les périodes de crise. Et enfin, un problème de qualité, c'est-à-dire un problème d'accès. Et donc, ils ont essayé de produire un plan qui promeuve une solution à la fois sur le plan de la qualité environnementale, de la qualité sociale et de l'aspect organisationnel.
Tu sais, quand on a commencé à faire les maraudes quand il y a eu le Covid, eh bien, on s'est débrouillé à faire de la récup et on n'est jamais allé à la banque alimentaire parce que c'est payant. Et on s'est toujours débrouillé à trouver des produits de qualité et des produits qui étaient même appréciés par les gens, quoi. Et on est une toute petite structure, quoi.
Vous êtes combien ? Vous êtes 4 ?
Non, on est une trentaine, mais il y a un roulement et on ne veut pas être plus de 5-6 dans les maraudes parce que nous, on a une approche de proximité, mais vraiment, on reste sur place, on discute avec les gens. Donc si on est 10, 20, ça ne marche pas. Et puis les gens, ils se sentent, oppressés en voyant à...
En arrivant comme ça, en petit effectif, on arrive à se mélanger avec eux plus facilement.
Qu'est-ce que c'est ce système de la banque alimentaire ? Pourquoi est-ce que la banque alimentaire, et de quelle manière ils vont sont-ils demandés de payer ?
Je pense qu'eux, ils ont des frais de fonctionnement. Après, c'est minime au niveau de participation, mais c'est toujours un montant. Nous, au départ, on n'avait pas de subvention, on n'avait rien. Maintenant, on commence à avoir un petit peu de subvention. Mais au départ, on n'avait vraiment que dalle. Ce qui fait que c'est nous qui achetons les gamelles, on a tout acheté, quoi. Et après, on s'est mis à faire la récup pour justement pouvoir faire vivre le truc, quoi.
Les produits qu'on récupère ont une date encore effective qui nous permet de le redistribuer.
Et très sincèrement, moi, quand on m'a dit la banque alimentaire, il faut leur payer quelque chose, j'ai dit non. Hein. Non, je préfère aller chercher à la source moi-même et redonner. Et ça se passe très bien.
Ça se passe très bien parce que même si on fait faire une centaine de repas par semaine, on va dire, on arrive à récupérer, en faible quantité, enfin, en quantité limitée. Après, c'est sûr que pour des structures qui ont besoin de quantités énormes...
Avant, je fouillais dans les poubelles pour récupérer à manger. Et les magasins, ils me voyaient en train de fouiller et ils m'ont dit « si tu veux, donne-moi ton numéro et on te donnera des invendus ». Et maintenant, j'ai deux ou trois magasins où ils me donnent des invendus et après, je récupère avec mon vélo électrique et je distribue à tous les gens de la rue. J'arrive à avoir des amis, à des contacts dans la rue, voilà.
Tu as quand même des personnes qui sont à la rue et qui font le nécessaire pour pouvoir aussi faire des récups. Il y a les associations qui font les récups, mais il y a aussi des personnes qui sont à la rue, mais qui vont quand même chercher à manger pour redistribuer à leurs compagnons de rue, quoi.
Je fais ça, je récupère des invendus dans les magasins. Et moi, je suis une personne de la rue, hein, et au lieu d'avoir autant de choses, je préfère le distribuer que le garder, quoi. Voilà.
Est-ce que ça s'est aggravé, la situation, ces derniers temps ?
Ah oui, ça s'est aggravé, il y a de plus en plus de gens à la rue. Hein. Ah ouais. Oui, il y a plus de gens à la rue. C'est vrai qu'il y a de plus en plus. Hein.
Les gens dont vous occupez, est-ce que leur situation personnelle s'est aggravée ?
Ah si, il y en a beaucoup qui s'est arrangé. Hein. Parce que moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Et à chaque personne, il y en a qui sont partis en prison, il y en a qui ont retrouvé un squat.
J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faudrait un système d'État qui donne de l'argent aux gens tous les mois pour leur alimentation, juste pour leur alimentation ?
Non. Non, parce que dans les invendus, on récupère pas mal de choses. Il y a même des associations qui viennent nous donner à manger. L'argent, si on donne de l'argent à ces gens-là, ils vont plus profiter pour la drogue ou pour l'alcool.
Ça serait obligatoire pour l'alimentation ?
Bah ouais, mais ils vont faire le transfert. Je te donne des tickets, en échange, tu me donnes de l'argent. C'est ça.
Et un système comme la sécurité sociale, par exemple, vous avez votre carte
On l'a CMU.
Oui. Ça sera un peu ce genre-là ?
Non, je pense... Non, c'est plutôt... comment ça s'appelle, des médiateurs, des personnes qui viennent carrément, chaque personne les suivre et qui s'occupent de chaque personne, de leur situation, de trouver un logement et tout ça, ou arriver à arrêter l'alcool ou arrêter la drogue ou un truc comme ça.
Il faudrait plus d'implication de gens qui s'occupent des autres.
Voilà. Il y a une personne qui gère à peu près une dizaine de personnes qui sont dans la rue. Voilà.
Mais c'est comme les...
Chaque personne a son histoire et de les aider à affronter, à trouver du travail, à arrêter l'alcool, à trouver un appartement. Chaque personne a une situation, il faut les aider, quoi.
Mais il y a déjà les assistantes sociales, les éducateurs de rue ?
Les assistantes sociales sont saturées. Hein. Et les gens de la rue, c'est qui, vous voyez, vous voulez ?
Les éducateurs de rue ?
Non, j'en vois pas. J'en vois pas d'éducateurs de rue, j'en ai jamais vu. Hein. Les SAMU 33, ça n'a rien à voir. Hein.
Le SAMU social, est-ce que ça marche ?
Non, pas du tout. Hein. Non. Moi, je vois pas. Ils aident quand ils sont dans le froid et quand ils récupèrent, mais c'est tout, quoi. Après, ils ressortent le lendemain et ils sont toujours à la rue. Hein.
Univox.